Il y a une créativité possible avec le papier qui est sans limite et via les systèmes de QR code qui peuvent nous emmener vers soit des liens avec des sites, soit des expériences 3D. On peut imaginer toute une bascule. Ça veut dire qu'on peut basculer d'un type de média à un autre, revenir, passer du papier au digital, du digital au papier. Et ça fait partie aussi de l'expérience et du plaisir qu'on recherche même parfois avant même l'acte d'achat.
Bienvenue dans les Experts du Mix, le podcast de La Poste Solutions Business. Ensemble, nous allons parler de mix média avec ceux qui en parlent le mieux, c'est-à-dire les experts marketing et communication des marques. Nous allons donc aller à leur rencontre en nous baladant d'un univers à l'autre. Et pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Sébastien Emeriot. C'est le directeur du planning stratégique de Havas Media. Et avant ça, il a évidemment eu de nombreuses expériences, en particulier au CRM chez Danone et dans de nombreuses agences. Et avec Sébastien, on parle de plaisir, on parle de tendance, on parle évidemment de la place du papier dans un mix média moderne. Et peut-être, pourquoi pas, une sortie par le haut à travers le papier. Je vous laisse écouter l'épisode. Bonne écoute! Donc, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour Sébastien.
Bonjour.
Tu es abonné aux Inrock, si je ne me trompe pas.
Tout à fait.
Et il s'est passé un truc pendant la pandémie. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu?
Je suis abonné aux Inrock, je crois, depuis numéro 12, ça date depuis 1990. Et donc, je le reçois. Et pendant la pandémie, j'ai pu reçu les Inrock parce qu'ils n'en voyaient plus, quoi. Et ils m'ont, au bout d'un moment, ils m'ont dit d'aller regarder sur les internets parce qu'ils y seraient. Et en fait, j'ai pas eu du tout envie. Et c'est là que j'ai pris conscience qu'en fait, une grande partie du plaisir que j'avais dans la lecture des Inrock, c'était de tourner les pages, d'aller à mon rythme, de voir ces images. Pourtant, c'est pas vraiment l'équipe grand format, hein, les Inrock, hein, mais... Et ça m'a fait bizarre, quoi, parce que j'ai quasiment attendu que le papier revienne pour relire les Inrock. Donc, il y a un peu, c'est comme s'il y avait un trou dans ma vie culturelle qui est lié à, aux trois mois du premier confinement des Inrock. Assez étrange.
Et justement, en fait, avec Havas, vous avez bossé avec le labo de neurosciences de Normal,
ouais.
Normal Sup, sur le rôle du plaisir. Et il y a une question que j'avais envie de poser, du coup, au directeur du planning que tu es, qui est: où est-ce qu'on trouve du plaisir dans le digital et où est-ce qu'on trouve du plaisir dans le papier et comment ça se décline tout ça? Comment ça marche?
Oui, c'est vrai qu'on a ce partenariat avec le laboratoire de neurosciences de l'école normale SUP. Et au tout début, en fait, la question qu'on leur avait posée, c'est pas vraiment la question du plaisir, c'était la question de qu'est-ce qui fait qu'on prend des décisions? Qu'est-ce qui fait qu'on décide de faire ceci ou de faire cela? Et c'est eux qui nous ont expliqué le fonctionnement du cerveau et qui nous ont dit qu'une grande partie de nos motivations, de ce qui fait qu'on se lève et qu'on agit, c'est la quête de plaisir. Aussi bien des petits, des grands, des moyens, des verts, enfin toutes sortes de plaisirs et chacun peut imaginer ce qu'il veut derrière. Et c'est vrai, là, pour le coup, dans la question du plaisir, et si on l'applique après aux médias, et si on l'applique au point de contact, ça touche à un autre sujet, c'est comment on arrive à avoir ce plaisir. Et ce que nous expliquaient les chercheurs, c'est qu'ils nous disaient que le plaisir est quelque chose de complètement multidimensionnel. C'est-à-dire qu'en fait, on est habitué, hein, depuis qu'on est sur Terre, ça fait quelques millions d'années, hein, à toucher les choses, à voir les choses, à sentir les choses, à engager nos sens. Alors les 5 sens, les 6 sens, les 7 sens, hein, parce que vous savez, il y en a plein des sens, hein, il y a la proprioception également. Et donc c'est hyper important pour notre cerveau d'engager nos sens concrètement pour avoir le maximum de plaisir. Et donc ce qui fait que quand les chercheurs, on en a beaucoup discuté avec eux, parce qu'on se posait la question du digital justement, hein, puis eux, ils ont aussi beaucoup travaillé sur comment le pilote automatique passe le relais au vrai pilote d'Air France, donc des sujets très 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 sérieux aussi, sur ce rapport entre digital et humain. Et donc, il disait, mais oui, mais le problème qu'il y a dans le digital, c'est que finalement, c'est très, 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 très visuel et un peu son. Et c'est là qu'il y a un problème, c'est-à-dire qu'il manque du plaisir dans le digital. Après, il y a une autre forme de plaisir sur laquelle ils reviennent, qu'ils appellent l'agentivité, c'est-à-dire le fait de pouvoir interagir et surtout agir sur le monde. C'est-à-dire que dans le digital, quand on clique, il se passe des choses. Et vous pouvez faire n'importe quelle application où vous allez sur Snapchat et vous pouvez vous mettre des tas de masques étranges, là c'est interactif, donc vous êtes content, là il y a une forme de plaisir. Mais c'est vrai que cette question de plaisir multisensoriel, il y a aussi la question du multitempo, mais c'est autre chose, multisensoriel, ça, c'est une carence du digital. Et forcément, pas du papier.
C'est ce que j'allais dire en fait, c'est dans le papier qu'on engage le plus de sens, c'est ça?
Bah, c'est dans le papier qu'on engage le plus de sens. Alors après, chacun, il y a notamment le parfum de l'encre. Hein. Alors, tout le monde n'a pas le plaisir du parfum de l'encre, mais il y a ce plaisir-là, il y a le plaisir du toucher quand on ouvre sa boîte aux lettres, qu'on voit plein de papiers qui sont potentiellement adressés, ou qui nous disent « Tiens, je vais recevoir une lettre ou une carte » ou des choses comme ça. Donc ça, c'est un plaisir parce qu'il est visuel, il est tactique, il est potentiellement olfactif, il y a le bruit de l'ouverture, il y a tout ça. C'est une forme de plaisir. Et on le néglige un petit peu parce que comme c'est quelque chose qui existe depuis des années, on considère que c'est acquis. Et en fait, on s'en rend compte, et c'est un peu mon expérience des Inrocks, on s'en rend compte quand on en est privé, quoi. Et c'est à ce moment-là qu'on se dit, bah mince, il me manque quelque chose, mais on a du mal à mettre le doigt dessus.
Et puis, il y a quelque chose qui est hyper intéressant, c'est que le papier, c'est aussi quelque chose qu'on reçoit à la maison. Et finalement, c'est quasiment du ce qu'on pourrait appeler du home media, c'est-à-dire en fait, c'est un support qui arrive chez toi et ça fait aussi une différence dans le rapport que tu as aux médias que tu es en train de consommer. Il y a ça aussi ou pas ?
Bah, il y a forcément ça. Alors déjà, moi, je suis tombé sur un grand dossier d'Accenture récemment qui m'a un peu marqué. Le titre, hein, c'est « Decade of the Home ». C'est-à-dire que, alors c'est en partie lié à l'année qu'on vient de passer de confinement, mais en gros, ce que dit Accenture, qui sont des gens très sérieux, ils expliquent que ce soit l'apprentissage, le divertissement, que ce soit le travail, que ce soit tout un tas de domaines, là ça a été une manière un petit peu contrainte, mais les gens ont trouvé que ça fonctionnait plutôt pas mal, tout un tas de domaines finalement vont un peu se déporter au sein de la maison, et on voit un surinvestissement des gens dans la maison, dans le choix de leur maison, de là où ils habitent. Il y a une année immobilière assez dingue en 2020, alors qu'on n'était pas censé être capable de visiter. Donc, cet investissement énorme dans la maison fait que tout ce qui rentre et tout ce qui sort de la maison a une valeur encore plus importante que ce qui nous arrive peut-être dans d'autres contextes, que ce soit dans la rue ou autre. Et c'est pour ça que, moi, ce que je trouve hyper intéressant avec la boîte aux lettres, hein, il y a la porte d'entrée chez vous, mais il y a la boîte aux lettres, c'est ce qui rentre et ce qui sort de chez vous. Et donc, ce qu'on reçoit dans notre maison, a une valeur différente. Ça veut dire qu'on peut avoir un jugement à la fois plus dur, c'est-à-dire qu'on dit « mais pourquoi je reçois ça ? Je veux pas, ça me pollue. » Mais comme on peut avoir un jugement beaucoup plus favorable en disant « mais quel bonheur, quelle joie d'avoir été ciblé, de recevoir cette attention et de pouvoir le découvrir. » Donc il y a cette dimension-là qu'il y a dans Home Media que je trouve hyper intéressante. Et puis il y a d'autres dimensions aussi, c'est-à-dire que on se rend compte que de plus en plus de médias ciblent les individus. C'est-à-dire que via le smartphone, par exemple, vous êtes ciblé en tant qu'individu. Toutes les promesses du digital, c'est vous cibler en tant qu'individu. Or là, ce que je trouve particulièrement intéressant en home media, c'est qu'en fait, on cible un collectif, les gens qui habitent ici. Et les gens qui habitent ici, bah, c'est des gens qui de plus en plus ont choisi d'habiter ensemble. Alors, il y a les foyers recomposés, il y a plusieurs générations, il y a... Et c'est ça qui est passionnant, c'est-à-dire qu'on peut envoyer un message à un collectif. Et un collectif qui va devoir débattre, je ne sais pas moi, de l'équipement en téléphonie, de la décoration de la maison, de peut-être changer de fournisseur d'énergie. Donc, des choses qui peuvent se faire à plusieurs. Et faire des trucs à plusieurs, c'est aussi quelque chose qui fait partie des grosses attentes en ce moment.
Par rapport à ce que tu disais, il y a plusieurs choses qui retiennent mon attention. La première, c'est le rapport à la maison et l'impact du confinement, moi, qui, je crois, va être très important et beaucoup plus important que ce qu'on pensait. C'est-à-dire que d'un côté, là, on est en déconfinement, je pense que tout le monde a envie de sortir, et en même temps, on a tellement pris l'habitude de rester chez soi qu'il y a ce côté nidification où on a envie de rester chez soi et d'avoir des expériences à la maison. La deuxième chose sur laquelle j'aimerais bien t'entendre, j'ai l'impression que le papier pourrait comme ça, plutôt que de polluer en envoyant des produits, ce que tu disais, dont on n'a pas forcément envie, mais plutôt arriver peut-être par le haut à avoir une offre extrêmement qualitative. Donc j'aimerais bien t'entendre sur les deux points.
Bah, sur le premier point, qui est de se dire des gens ont vécu des expériences pour partie formidables pendant les confinements. Il y a des pourcentages assez énormes là-dessus, 50-60% sur les études ont vécu un confinement formidable, le premier en tout cas. Et derrière, c'est vrai que la vie au sein du foyer, d'une certaine manière, elle peut être agrémentée de choses qui viennent de l'extérieur par la boîte aux lettres, par exemple. Par rapport à ton point de dire... je prends la plume pour des moments ou des démarches un petit peu plus personnelles, un peu plus riches, un peu plus profondes, un peu plus touchantes. Je ne sais pas si ça représente des volumétries importantes. Dans la symbolique, c'est énorme, mais je ne sais pas si au niveau des particuliers, ça représente des volumétries importantes. En revanche, au niveau des marques, ce qui est sûr, c'est que recevoir une attention personnalisée ou non d'une marque, mais dont je sens que ce n'est pas juste un email envoyé parmi des milliards d'emails avec des noms qui changent, des choses comme ça. C'est revalorisé. Parce que comme tu le dis, c'est-à-dire, je sais que si moi, je prends la peine d'aller écrire une carte postale ou d'écrire une lettre, je sais que ça a une valeur. Et donc, si les marques le font dans l'autre sens, je suis capable de comprendre qu'également, ça a une valeur. Ça a une valeur parce que bah, il faut déjà les imprimer et puis il faut les envoyer. Mais ça a une valeur aussi parce que faut pas se planter, quoi. Il faut raconter quelque chose de bien. Et donc, cette prise de parole-là a une valeur. Et là où je la trouve hyper intéressante aussi, c'est de se dire que, au-delà des aspects très personnalisés, on sait qui vous êtes, on sait ce que vous faites, qui va vers des dimensions très data et qu'on peut retrouver dans le digital. Mais je reviendrai après sur cet aspect-là parce que je pense qu'il est important. Mais au-delà de ces aspects très digitalisés, c'est qu'on peut arriver avec des objets papier probablement très surprenants et très créatifs. On reçoit aujourd'hui par la poste des tas de colis, de tas de vendeurs en ligne. Donc, je pense que le format papier doit pouvoir, je ne dis pas suivre cette volumétrie-là, mais en tout cas, je suis sûr qu'on doit pouvoir imaginer des envois de documents papier qui se déplient, qui font des origamis, qui deviennent des posters, qui deviennent des choses animées en volume, et donc qui sont impressionnantes, qui sont qualitatives et qui touchent les gens qui les reçoivent, parce que ça peut devenir quasiment des cadeaux, quoi. Et c'est ça ce qu'on peut imaginer comme étant une sortie par le haut du document papier qui vous arrive chez vous, c'est de se dire, faut que ça soit festif, faut que ça soit surprenant, faut que ça soit créatif. Et je pense qu'on doit pouvoir réouvrir les portes de la créativité sur ce document-là, parce que contrairement à un bumper ad de chez Facebook, hein, même si on aime tous bien les bumper ads de chez Facebook, on est dans des specs beaucoup plus libres. Quand vous travaillez sur les différents réseaux sociaux ou dans les environnements digitaux, vous avez des specs très, très, très contraignantes. Donc là, vous avez des possibilités beaucoup plus libres. Donc je pense qu'on devrait inciter les créatifs à jouer avec toutes les possibilités du papier.
Et justement, si je reviens sur ton expérience, on n'en a pas parlé jusqu'à présent, mais tu as pas mal bossé au CRM, donc à la relation client chez Danone. Et à ce moment-là, vous envoyiez beaucoup de papiers, parce que c'était avec tout le respect que je te dois, il y a quelques années. donc c'était beaucoup plus papier que digital. Forcément, à l'époque, c'était quasiment le média prioritaire pour la partie relation client. Est-ce qu'il y a des KPI, des choses que vous mesuriez à l'époque et tu te rends compte avec le recul aujourd'hui, donc 20 ans plus tard de digital finalement quasiment, qu'il y a vraiment des trucs qu'on pouvait trouver dans le papier qu'on ne récupère pas dans le digital? Je sais que tout n'est pas qu'une question de KPI, on y reviendra sans doute un tout petit peu après, mais j'avais cette question et je suis très curieux d'avoir ta réponse.
On avait la chance, donc c'était pour être précis dans les époques, hein, c'était la fin des années 90, donc le début des années 2000. Donc concomitamment à l'explosion de la première bulle Internet et de toutes les folies qui s'emparaient du monde digital, on envoyait 4 fois par an près de 3 millions de magazines Danone et vous, avec une série d'une trentaine, une quarantaine de bons de réduction personnalisés, donc à 3 millions de foyers. Un magazine qui faisait, si je me souviens bien, 36 pages et qu'on faisait avec Hachette, donc avec des vrais journalistes. On avait un taux d'ouverture du magazine, hein, et de lecture qui oscillait entre 50 et 65%. Et on s'est mis, au bout d'un moment, en même temps, à faire des newsletters, hein, forcément, puisqu'on basculait les gens sur le digital en disant « Ah, ça sera moins cher, ça sera moins cher ». Les chiffres étaient « Mais il fallait enlever un zéro ». Donc, ça montre bien l'impact et l'importance. C'est-à-dire qu'on savait que c'était pas évident d'imprimer un journal, de concevoir, d'imprimer, de diffuser un journal, c'est pas évident du tout. Mais le retour sur investissement était déjà ces niveaux d'ouverture, de lecture et d'appréciation des contenus. Et derrière, on arrivait, grâce au panel, en comparant des exposés et non exposés, on arrivait à démontrer que ça avait un impact d'environ 15 à 20% sur la consommation des foyers. Donc le truc était complètement sécurisé, et complètement efficace, et complètement rentable. Là où aujourd'hui, quand on est sur des campagnes digitales, c'est parfois bien plus délicat de savoir si c'est véritablement rentable, un peu rentable, très rentable ou pas du tout rentable.
Et alors, puisqu'on parle de digital, en fait, quand on parle de digital, on parle beaucoup d'expérience, naturellement. Que ce soit de la réalité augmentée, la réalité virtuelle, voire même des QR codes. Mais en fait, ce dont on se rend compte, c'est que le papier, il évolue lui aussi et qui permet parfois de faire le pont entre le digital et les expériences. Est-ce que tu pourrais nous en parler un tout petit peu?
Ah, c'est clair, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Hein, c'est-à-dire que il y a une créativité possible avec le papier qui est sans limite et via les systèmes de QR code qui peuvent nous emmener vers soit des liens avec des sites, soit des expériences 3D. On peut imaginer toute une bascule ou même toute une... J'irais même jusqu'à dire hybridation, ce mot hein, qu'on aime bien aussi, parce que ça veut dire qu'on peut basculer d'un type de média à un autre, revenir, passer du papier au digital, du digital au papier. Et ça fait partie aussi de l'expérience et du plaisir qu'on recherche un petit peu et qu'on recherche même parfois avant même l'acte d'achat. Parce que ce dont on parle, là, c'est beaucoup aussi de communication avant l'acte d'achat. Et quand on réfléchit aux stratégies de marque, je dis souvent aux marques, mais essayez d'imaginer que le parcours client doit être une série d'expériences qui apportent du plaisir. Et une découverte, des informations, apprendre quelque chose, être surpris. Et c'est clair qu'en utilisant des technologies qui permettent de basculer du papier au digital via toutes sortes d'outils, bah ça peut apporter quelque chose dans l'expérience et donc dans la relation entre le marque et ses clients ou ses prospects. Donc oui, c'est clairement une piste.
Et alors, en tant que, tu sais, j'ai été chantre du digital pendant une bonne quinzaine d'années. Et en fait, pour convaincre les marques à l'époque d'aller dans le digital, on disait, oui, mais vous savez, sur le digital, on peut tout mesurer. Et puis, aujourd'hui, depuis un an ou deux, on va dire, on voit réapparaître ce qu'on appelle des valeurs invisibles. C'est-à-dire, et là, je parle vraiment aux planeurs, c'est les valeurs invisibles, c'est tout ce qu'il y a autour de choses que tu peux pas effectivement mesurer, mais qui sont dans le lien. C'est-à-dire, par exemple, quand tu essayes de créer du lien avec des amis, tu vas passer du temps au téléphone, tu vas les écouter, tu peux pas vraiment le mesurer, mais par contre, ça a un impact extrêmement puissant dans ta relation à la personne, évidemment. Et de la même manière, j'ai cette sensation que, bien sûr, sur le digital, on peut tout mesurer, c'est vrai, mais que le papier, ça amène cette valeur invisible qu'on peut pas, on peut mesurer beaucoup de choses, évidemment, mais qu'en plus, ça amène cette, je sais pas, peut-être on pourrait parler de NPS, tu vois, de Net Promoter Score, je sais pas si c'est le bon KPI, mais en tout cas, d'aller chercher un lien, donc plutôt du ROI non financier à long terme, mais du ROI quand même, qu'on va chercher à travers le relationnel qu'on crée à travers le papier. Parce que document, en fait.
Bah, oui, y a, et puis parce que physique, quoi. Y a un truc qui est qu'ont beaucoup mis en avant les magazines et les journaux, c'est la reprise en main. Et ça marche aussi pour tous les objets papier, tout ce qui peut arriver dans votre boîte aux lettres. Si à un moment, vous trouvez que c'est intéressant, vous trouvez que ça mérite que vous y regardiez à deux fois, vous trouvez que c'est important de le partager avec votre compagne, avec vos enfants, avec vos parents, avec qui que vous... Il y a cette dimension reprise en main qui, alors, peut-être que dans le digital, c'est facile, on envoie et on partage, peut-être qu'on fait suivre, peut-être qu'il y a d'autres façons de le faire. Mais ce qui se passe avec la reprise en main, c'est qu'il y a une présence. C'est-à-dire que sur la table de la cuisine, de la salle à manger, du salon, la table basse, je ne sais où, il y a une présence d'un objet physique qui, à tout moment, peut rappeler qu'il existe, rappeler le message qu'il a à délivrer, voire même ouvrir, c'est ce que j'évoquais un petit peu, alors peut-être de manière un peu naïve, mais ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est un peu la dimension de débat. C'est-à-dire qu'un message qui apparaît là, on stigmatise souvent le monde digital, et notamment les réseaux sociaux, qui ont tendance à enfermer dans des bulles. Ben, le papier, il n'enferme pas dans des bulles, hein, parce que le papier, tout le monde le voit. Cette dimension de discussion-là, elle est, je pense, aussi unique dans le rapport qu'on peut avoir au papier et à cette matière, à cet objet qui reste sur place. Et puis après, il y a un autre truc aussi dont je voulais te parler, peut-être qui est sur le ciblage. Toi qui es un apôtre du digital, tu sais qu'on a beaucoup ciblé grâce aux cookies. Tu le sais.
Je le sais bien. Ouais.
Or, là, on est face à une époque ou une période où les cookies sont en train de disparaître. Donc comment fait-on pour s'adresser aux gens ? Comment fait-on pour s'adresser aux bonnes personnes pour faire passer nos messages ? Et il se trouve que l'endroit où on habite continue de dire énormément de choses sur qui on est. Et donc, au-delà même du fait que quand on reçoit par la poste un document, on peut être touché parce qu'il est particulièrement bien intéressant et adressé à nous, bah, il peut être aussi particulièrement bien ciblé.
Ça, c'est un très bon point parce qu'effectivement, on a tendance à oublier que les adresses disent énormément, et sans faire de jugement à la volée, mais ça dit énormément de qui tu es et dans quel environnement tu évolues, et utiliser les adresses aussi de cette manière-là.
Exactement. Et voire même, peut-être accélérer des liens au sein de communautés en disant, bah, puisqu'on envoie un message qui est à peu près le même ou adapté à toute une partie de gens dans tel ou tel quartier, bah, c'est peut-être aussi une manière de les fédérer, de faire en sorte qu'ils se rencontrent, qu'ils échangent, qu'ils discutent, et qu'ils agissent ensemble. Donc, c'est pas quelque chose qui s'adresse uniquement à des individus consommateurs. C'est potentiellement aussi des... D'ailleurs, on le voit dans les élections. Hein. C'est un des canaux qui est très utilisé.
Complètement, complètement. Merci beaucoup, Sébastien.
Merci, merci.
Merci beaucoup pour votre écoute. Si vous avez apprécié l'épisode, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou laissez-nous des commentaires. Et surtout, si vous souhaitez entendre une personne en particulier ou si vous-même souhaitez participer à ce podcast, n'hésitez pas à nous le faire savoir. À bientôt.